Livre des psaumes, le psaume 16, pour aborder un sujet qui a son importance, le sujet de la joie dans la vie chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'il soit anormal, qu'il y ait des moments où nous ayons des difficultés, parfois des tristesses, mais néanmoins nous devons nous rappeler que Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons malheureux. Amen. Mais heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Le psaume 16, verset 1er, c'est un hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, même en Israël. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Alors, libation de sang, ça veut dire que les idolâtres, en fait, en même temps, étaient violents dans leur vie. Et les libations de vin qu'ils mettaient sur leurs sacrifices sont imagées ici comme des libations de sang. Parce que souvent, les gens religieux sont aussi violents. Continuons. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, c'est-à-dire un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, après ce qu'il vient de dire, qu'il cherche en Dieu son refuge, que Dieu est son partage, son conseiller aussi. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. C'est la joie de la communion avec Dieu. Amen. Quand nous avons lu aussi mon cœur est dans la joie, c'est parce qu'il vient de décrire sa communion avec Dieu. La joie vient de notre communion avec Dieu. Il ne suffit pas un jour d'avoir été baptisé, d'être estampillé, être officiellement chrétien, inscrit sur les registres officiels d'une église évangélique. Pour que nous soyons dans la joie, il faut connaître le Seigneur. Alléluia. Il faut être en communion avec Dieu, s'y réfugier, y trouver son conseil. Oui, je crois que auprès du Seigneur, il y a la vie. Et dans cette vie, il y a cette joie qui n'est pas de ce monde. Amen. Oui, nous avons bien besoin d'être heureux près du Seigneur. Alléluia. C'est la joie de Jésus-Christ en ce psaume. Vous savez que ce psaume 16 est messianique. Les versets 10 et 11 nous parlent de sa résurrection. Ils ont été cités par les apôtres dans le livre des Actes des apôtres pour parler de la résurrection de notre Seigneur. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Jésus a été délivré de la mort. Alléluia. Et il y a des délices éternelles à ta droite. Ça veut dire quoi? Jésus est assis à la droite de Dieu. Ce psaume messianique et prophétique, en fait, nous annonçait que le Fils de Dieu mourrait, mais ressusciterait, et qu'il participerait à la joie et aux délices éternelles à la droite de Dieu. Alléluia. Mais l'Épître nous dit dans le Nouveau Testament que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. La joie ici, c'est la joie de la communion avec Dieu, c'est la joie céleste aussi. Hein, c'est écrit, il y a d'abondante joie devant ta face. C'est-à-dire dans le ciel, là où Dieu est, devant lui, il y a d'abondante joie devant ta face. Des délices éternelles à ta droite où est Jésus-Christ. Les délices éternelles sont en Jésus-Christ. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Et pour connaître cette joie, bien, il faut être d'en haut. Il faut être assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est une joie céleste. Amen. C'est une joie d'en haut. Les joies d'en bas, on les a connues autrefois, mais elles sont éphémères. On est heureux parce qu'on vient s'acheter le dernier lave-vaisselle. Mais franchement, c'est pas cette joie dont je parle. Les joies d'en bas, ben Dieu soit béni, le livre de l'Ecclésiaste nous dit quand même qu'il faut savoir profiter de la vie. On dit parfois, ah, il faut profiter de la vie, sous-entendu en vivant dans le péché. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent vraiment profiter de la vie, parce qu'ils reçoivent de Dieu ses bienfaits, en vivant dans la sainteté. Alléluia. Il y a bien sûr bien des joies terrestres qui sont de Dieu, mais il y a ces joies célestes, parce que qui viennent d'en haut de l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Et nous sommes appelés bien-aimés à vivre dans cette joie d'en haut. Alors si la joie est dans le ciel, si la joie est devant la face de Dieu, ça veut dire que Dieu est heureux. Alors ça, on va le lire. 1 Timothée chapitre 1er, verset 11. 1 Timothée chapitre 1er, verset 11. C'est un texte qui, au début de ma conversion, m'a fait beaucoup de bien. 1 Timothée chapitre 1er, verset 11. Voilà. La phrase est coupée, mais l'essentiel est là. Conformément, 1 Timothée 1, 11, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Amen. Notre évangile, c'est l'évangile de la gloire du Dieu heureux. Amen. Vous savez, quand c'est écrit, il y a d'abondante joie devant ta face, bien, Paul l'explique, la gloire du Dieu bienheureux. Dans la gloire, dans le rayonnement de la gloire de Dieu dans le ciel, il y a la sainteté. Mais il y a aussi la joie. Amen. Nous, pourquoi cela m'a fait du bien, ce passage, au début de mes années de conversion? C'est parce que nous sommes d'arrière-plan catholique. Et dans cette religion, bien souvent, Dieu est présenté comme étant austère, froid, lointain, quelque part triste. Mais quand j'ai découvert dans la parole de Dieu que Dieu était heureux, alors je me suis dit, alors la vie qu'il veut me donner, c'est une vie dans laquelle il y a sa joie. Amen. Parce que être joyeux, ça ne veut pas dire être superficiel. Être joyeux, ça ne veut pas dire être plaisantin. Dieu est heureux, mais il est saint, sérieux. Souvent, je crois qu'on confond les choses. Je ne vous parle pas ici de tempérament, de caractère, ni même encore moins de légèreté. Mais on peut être tout à fait sérieux et joyeux. D'ailleurs, c'est bien souvent la différence entre la joie mondaine et la joie chrétienne. Quelqu'un peut être tout à fait sérieux dans la vie, mais très heureux dans son cœur. Et même aussi dans l'expression de son visage. On peut être souriant sans être exubérant. Alléluia. On n'est pas obligé de faire un one-man show pour faire rire tout le monde. Mais dans la simplicité, Dieu nous donne des choses profondes. Alléluia. Une joie d'en haut, une joie céleste. Parlons maintenant, puisque dans ce psaume 16, j'ai dit tout à l'heure que ce psaume concernait Jésus-Christ. Et cette joie que David exprime dans sa communion avec Dieu, c'est donc en anticipation la joie que Jésus-Christ avait aussi sur la terre. Alors lisons dans Luc chapitre 10, verset 17, s'il vous plaît. Il y a des passages qui nous montrent très clairement la joie de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ah oui, c'est au nom de Jésus, mais ils sont contents qu'il leur soit soumis quand même. Hein. Des fois, on dit souvent qu'on fait des choses pour le Seigneur, mais on prend quand même de la place. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, il y a une mauvaise joie. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Il les a bien écoutés quand ils ont parlé. Hein. « Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. » Un beau passage sur la joie. Ah, on est bien souvent content quand le Seigneur bénit, comme ses disciples. Ils étaient revenus joyeux. Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. Mais ce qui vient d'abord, c'est nous sont soumis. Et là, le Seigneur dit, attention, attention. Il faut que, attention, bien-aimé, même dans l'œuvre de Dieu, on ne doit pas avant tout être heureux de ce qu'on fait, mais de ce qu'il a fait pour nous. Amen. C'est simple ce que je viens de vous dire, mais c'est profond. Mon bonheur, c'est pas d'être pasteur. C'est pas que dans mon ministère, il y ait des choses que Dieu pourrait faire. Il faut que jusqu'à la fin, je sois heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. C'est vrai pour le pasteur, mais c'est vrai pour chaque chrétien. Vous savez, parfois, nous essayons de trouver notre joie dans une réussite religieuse. Nous essayons de trouver notre joie en travaillant pour le Seigneur plutôt que de trouver notre joie dans le ciel, devant la face du Seigneur. Il ne nous est pas interdit d'être heureux dans ce que nous faisons pour Dieu, bien évidemment. Mais nous ne devons pas avant tout nous réjouir de ces choses, mais nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans les livres des cieux. Amen. Parce que vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il y a des moments où ça marche. Et il y a des moments où ça marche pas. En fait, c'est faux. Hein. Je parle d'un point de vue humain. Des fois, quand on pense que ça marche, c'est pas si bien qu'on le pense des fois. Et des fois, quand on pense que ça marche pas, c'est pas si mauvais non plus qu'on le pense. Nous nous voyons avec nos yeux limités. Mais c'est ce que nous ressentons. Et si nous ne nous réjouissons que quand les démons sont chassés, alors nous allons nous attrister quand il nous semblera que Dieu n'agit plus de la même façon. Notre joie va osciller, elle va dépendre de ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu plutôt que de ne dépendre que du Seigneur. Amen. Ne puisons pas nos joies dans ce que nous faisons pour Dieu, mais puisons notre joie auprès de lui, dans notre relation avec lui. Amen. Merci Seigneur. Alors, vous voyez bien que Jésus a connu cette joie céleste, cette joie spirituelle. Alors, quand on dit spirituel, je voudrais apporter quelques éclairages, parce qu'aujourd'hui, le mot spirituel est galvaudé. En France, quand on dit spirituel, si vous allez à la FNAC, par exemple, tout ce qui est spirituel, on met dans le même rayon l'ésotérisme, le spiritisme, l'hindouisme, le christianisme. Spirituel, dans le langage français courant, c'est un mot assez vague pour parler de tout ce qui est un peu mystique ou religieux. Spirituel, quand nous l'employons dans l'Église, ça veut dire ce que simplement l'Écriture enseigne. Spirituel, c'est de l'Esprit de Dieu, c'est tout. Donc une joie spirituelle, ça ne veut pas dire une joie réservée à des chrétiens spirituels. Sous-entendu qu'il y aurait des chrétiens qui seraient comme une élite, comme vraiment des pros, et que les autres chrétiens ne seraient pas forcément spirituels. Écoutez, nous avons tous été régénérés par le Saint-Esprit. Tous les chrétiens sont dans la vie spirituelle, dans la vie de l'Esprit. Amen. Et nous avons bien besoin de comprendre que notre joie, elle est spirituelle, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. En deuxième place, la joie. Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Gloire à Dieu. Alors souvent, on dit, quand on aime, on souffre. L'Écriture dit l'amour, la joie. Je dis pas, c'est vrai que quand on aime, parfois on souffre, mais il ne faut pas se laisser vaincre par les blessures de l'amour. Christ est mort à la croix par amour pour nous, mais il a vécu sa vie dans la joie de l'Esprit. Alléluia. L'amour, la joie. Alors Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit, et je crois, bien aimé, que c'est notre modèle, notre exemple. Nous connaîtrons vraiment de l'allégresse par la visitation du Saint-Esprit, par le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Et là, on touche à quelque chose d'un peu mystérieux. Des fois, on a des difficultés, on s'accroche, on prie, mais c'est dur. Et puis, le matin, on se réveille, on est heureux. Il y a une joie qui nous saisit. La veille au soir, on a dû s'opposer à un collègue de travail, ça a été compliqué, on était perturbé, et on se réveille, on est heureux. A contrario, à contre-pied des événements, c'est une joie d'en haut. Alléluia. Nous avons bien besoin d'être fortifiés par cette joie. C'est le privilège aussi de la Nouvelle Alliance. Jésus termine ce passage en disant « Mais heureux, mais vous êtes heureux !» Mais vous ne vous rendez pas compte? Mais tous les prophètes, les rois, auraient tellement aimé entendre, voir. Mais vous qui êtes, je vous ai choisi, vous êtes un pécheur, un zélote, un péager, vous qui êtes loin d'être roi ou prophète, loin de tout ça, vous qui êtes des petits, mais vous êtes heureux, vous avez reçu plus que les grands personnages de la Bible. Alléluia. Oui, nous devrions quand même comprendre que l'on a de quoi être heureux. Amen. Parce qu'on a beaucoup. On a beaucoup. Heureux êtes-vous? Vous pourriez me dire, non, mais frère, ma vie, mes difficultés. Oui, mais ça n'enlève en rien que la révélation que nous avons dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ, du salut, de la vie éternelle, de l'assurance du pardon des péchés, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est des trésors. Amen. Je me souviens, quand j'étais inconverti, j'étais malheureux, j'avais peur de la mort. Je ne connaissais rien. Je cherchais la vérité. Mais nous avons trouvé, ou plutôt, nous avons été trouvés par Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Heureux êtes-vous, bien-aimés. Mais vous êtes tous heureux. Je crois que le Seigneur serait là, il dirait, mais vous êtes tous heureux. Vous êtes tous dans une belle vie. C'est la vie céleste. La vie chrétienne, c'est la plus belle des vies. Amen. Et je le pense vraiment. Je ne le dis pas comme un prédicateur pour essayer de donner du courage à son Église. Non. La vie chrétienne, c'est la plus belle des vies. Avant, j'étais malheureux, mais Christ m'a sauvé. Alléluia. Et chaque jour de ma vie chrétienne, et jusqu'à la fin, je le sais, le Seigneur me montrera de belles choses de son royaume. Quand je dis des belles choses de son royaume, je ne veux pas forcément parler de miracles, mais je veux parler d'un verset qui s'éclaire. Alléluia. En la communion avec Dieu, on prie une pensée qui nous vient du Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'est énorme ça. On oublie ça. C'est qu'on a été réconcilié avec Dieu. C'est qu'on a accès auprès du Père. Et ce n'était pas comme cela pendant des siècles et des siècles. C'est en Jésus-Christ que nous avons ce privilège. Dieu soit béni. Lisons dans Hébreux chapitre 1er, verset 9, pour poursuivre sur la joie de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1er, verset 9. Il est dit, Hébreux 1, 9. Tu as aimé la justice. Alors c'est le psaume 45 qui est cité dans ce premier chapitre. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. Eh oui, l'huile du Messie. Messie, ça veut dire loin. Et vous savez qu'en symbole, l'onction de l'Esprit dans l'Ancien Testament s'opérait par une onction d'huile. Ici, l'huile d'onction de Jésus, c'est une huile joyeuse, c'est une onction de joie, une huile de joie. Amen. Il y avait une huile de joie sur Jésus-Christ. Et pourtant, il ne faisait pas rire les foules. Mais il y avait une huile de joie. Merci Seigneur. Une huile de joie était sur lui différemment de tous les autres. Alors peut-être, vous n'avez peut-être pas, vous n'y avez peut-être pas réfléchi, pardon. Quand j'ai médité ces textes il y a bien longtemps maintenant, j'en suis arrivé à la conclusion que l'homme qui a été le plus heureux sur la terre, c'est Jésus-Christ. Amen. Et je le crois vraiment. Il avait une huile de joie en tant que Messie constamment. Il vivait constamment dans la joie de l'Esprit. Alléluia. Il a été le plus heureux des hommes sur la terre. Malgré les combats, les difficultés, le travail, sa mission, le sérieux de ses enseignements, il a eu une huile de joie sur lui. Dans le psaume 45, d'ailleurs, Jésus est présenté comme un guerrier et sa joie est fondée sur la justice, mais je n'ai pas le temps de détailler. Par contre, on va aller maintenant dans le prophète Ésaïe, si vous voulez bien, parce que cette expression « huile de joie » se retrouve, mais à notre propos. Ésaïe 61, verset 1er. Ésaïe 61, verset 1er. Ésaïe 61. Ah, je suis dans les psaumes, ça n'ira pas. Voilà. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle, des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Vous savez que cette prophétie d'Ésaïe, Jésus l'a utilisée pour dire qu'elle a été accomplie en lui-même. Dans la synagogue de son village, il a pris le rouleau d'Ésaïe, il a lu ce passage en affirmant « Aujourd'hui, cette parole est accomplie ». Donc Ésaïe 61, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. L'Esprit sur Jésus. Et il nous est dit ici que le Messie, loin, le Christ, est venu pour donner une huile de joie au lieu du deuil. Amen. En d'autres termes, cette huile de joie qui était sur lui, il est venu pour la donner sur nous. Amen. Donc nous devons participer à cette joie de l'Esprit en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il y a vraiment là une évidence, c'est que nous devons avoir la même onction que lui. Cette onction joyeuse, cette huile de joie. Au lieu du deuil, au lieu d'un esprit déprimé, pour consoler les affligés, nous ne devons pas rester dans nos afflictions. L'Esprit de Dieu est d'ailleurs appelé le Consolateur dans le Nouveau Testament. L'onction de l'Esprit est là dans nos vies pour nous guérir, nous consoler, nous relever, changer la tristesse en joie. Alléluia. Il faut aussi laisser le Saint-Esprit nous renouveler, nous changer. Cette semaine, j'ai entendu le témoignage d'une chrétienne qui était en dépression avant sa conversion, au point qu'elle voulait mettre fin à ses jours. En tout cas, elle y pensait. Heureusement, une chrétienne l'a vue, lui a témoigné du Seigneur. Alléluia. Elle était en dépression, elle ne savait plus faire son ménage, rien du tout. Mais suite au message de l'Évangile, elle est tombée à genoux. Et Dieu l'a visitée. Elle rendait ce témoignage que c'est comme si sa tête s'était ouverte et que cette dépression s'enlevait de son cerveau. C'est ce qu'elle a ressenti. Ne croyez pas que vraiment sa tête s'est ouverte, c'est ce qu'elle a ressenti. Son mari rentre, la maison est nettoyée, balayée. Tout avait changé. Alléluia. Nous avons des témoignages de gens qui sont en dépression que Dieu a libérés. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans la dépression. Amen. L'Esprit de Dieu, quand il visite, qu'il renouvelle, tous ceux qui ont été régénérés par le Saint-Esprit savent et ont goûté à la joie d'en haut. Alléluia. Et mon sujet n'est pas ici de dire c'est pas bien d'être en dépression. C'est pas ça, parce que quand quelqu'un ne va pas bien, c'est peut-être pas le moment de lui dire « Ah ben c'est grave, ah ben c'est pas normal. Je pense pas que vous allez l'aider, vous savez. » Le sujet n'est pas là. Je comprends bien que dans la vie, des fois, il y a un concours de circonstances, il y a des difficultés, et on met le genou à terre. Je le comprends, ça. Mais je crois que Jésus-Christ s'est relevé quiconque se confie en lui. Et il s'est relevé celui qui est à terre. Alléluia. Dieu soit béni. Oui, vraiment bien-aimé, le Dieu bienheureux a envoyé son Fils avec l'huile d'onction pour nous donner à nous l'huile de joie, la même que lui. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que peut-être vous avez un caractère pessimiste, triste, vous avez une tendance peut-être à vous faire du mal. Écoutez, il y a certainement de bons côtés dans votre caractère, vous cherchez peut-être à être profond, il y a certainement de bons côtés, mais faisons attention de ne pas aider l'adversaire à nous détruire, à nous auto-détruire. L'Esprit de Dieu nous convainc. Et des fois, c'est bon, c'est la tristesse selon Dieu. On se repent et le Seigneur nous relève. Amen. C'est différent du diable qui accuse. C'est différent de nous-mêmes, parfois, qui nous embourbons dans le sable mouvant de nos raisonnements destructeurs. L'homme de Dieu dit, sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Vous savez, il faut qu'on fasse attention, on est parfois touché par des philosophies dont on ne se rend pas compte. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Socrate, c'est un philosophe grec, ce n'est pas la Bible. La Bible, elle dit, sonde-moi, ô Dieu. Parce que si on fait toujours de l'introspection, ça va être ravageur. À un moment donné, il faut s'arrêter. Parce que moi, je veux bien, mais si tout cela, ça vous fait du mal, si tout cela, ça vous empêche d'être heureux dans votre foi, à un moment donné, est-ce que l'on ne peut pas dire, Seigneur, moi, j'arrête de trop essayer de m'analyser, mais toi, analyse-moi. Toi, parle-moi. Parce que je suis sûr que toi, tu ne te tromperas pas. Mais moi, je vais me tromper. Vous savez, des fois, on va penser qu'il y a des choses que l'on fait et c'est bien, et on aura tort. Mais il y a aussi des fois où on va s'accuser, on va dire c'est mal, et pas forcément. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui me juge. Amen. C'est Dieu qui nous juge tous, c'est sa parole. Mais si nous devenons notre propre juge, je pense que ça peut être dangereux. Parce que si nous sommes juges de nous-mêmes et qu'en plus on a un accusateur contre nous, oh, ça va être compliqué. Heureusement, le Seigneur Jésus est un avocat. Alléluia. Un défenseur auprès du Père. Allez, lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Je sais que ça semble un peu léger, des fois on se dit, oui, mais si j'analyse pas à fond ce que je dis, alors je vais me régresser. Mais vous inquiétez pas, si vous demandez au Seigneur de vous éclairer, il vous éclairera. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, il est dit, c'est un commandement de la nouvelle alliance. Soyez toujours joyeux. Amen. Assez court, hein? Mais ça en dit long. C'est un impératif, je préfère dire impératif, c'est un peu pour provoquer que j'ai dit, c'est un commandement de la nouvelle alliance. C'est un impératif en tout cas. Soyez toujours joyeux. Et les Thessaloniciens l'avaient expérimenté. Vous voulez lire au chapitre 1er, verset 6 avec moi, de la même épître, 1, 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Les Thessaloniciens avaient été persécutés dès qu'ils se sont convertis. C'est bon signe. C'est bon signe quand le monde a de la haine contre nous. Le frère a eu un beau passage qui nous l'a rappelé. C'est bon signe quand le monde a de la haine contre nous. Mais eux, ils l'ont vécu dans la joie du Saint-Esprit. Mais Paul avait dû partir assez vite et laisser cette jeune et frêle église se débrouiller un peu seule. Et régulièrement, il était inquiet, Paul. Parce qu'il était à chaque fois pourchassé par des ennemis, ça l'obligeait à partir plus vite qu'il le voulait. Mais en même temps, Dieu a fait son œuvre comme cela. Parce que comme il devait partir un peu pour s'enfuir à droite et à gauche, ben, des églises ont été fondées. Alléluia. S'il n'avait pas eu cette difficulté, il y aurait eu moins d'assemblées de fondées par l'apôtre Paul. Il serait resté plus longtemps, il aurait essayé d'établir. Donc il devait partir vite, alors il s'inquiétait souvent, d'où les épîtres. Il écrivait aux églises parce que c'était des jeunes croyants. Il voulait affermir, il voulait lutter contre l'adversaire. Et de loin, il leur écrit. Et il leur dit, en conclusion de cette parole, « Soyez toujours joyeux. Thessaloniciens, vous êtes persécutés. » Vous aurez des épreuves, ça va être dur, mais soyez toujours joyeux, comme quand vous vous êtes convertis. Alléluia. Il n'y a pas que nous qui avons eu des difficultés, bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu. Vous avez souffert, j'ai souffert. Je vais vous dire un secret qui n'en est pas un. Ça n'existe pas des églises, des chrétiens qui ne souffrent pas. Dans la vie familiale, dans l'église, dans la foi, au travail. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les souffrances possibles, parce que j'ai peur que je vais être contre-productif avec le thème de ma prédication. Mais on a tous souffert. Le piège, c'est de ne pas s'en sortir en restant triste après. Amen. On peut traverser les épreuves et dire, je suis fidèle, je suis resté dans l'œuvre de Dieu, je suis là. Oui, mais là comment? Là tout triste, découragé. Mais les chrétiens qui nous ont devancés, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, dit l'Épître aux Hébreux. Et c'est quoi ces chrétiens qui remplissaient le stade dans lequel les chrétiens couraient? C'était des chrétiens qui étaient morts pour leur foi. Des chrétiens qui ont donné leur vie. Et l'homme de Dieu dit, environné de ces témoins, ce stade rempli de bien-aimés qui nous ont devancés et qui ont souffert, qui ont donné leur vie et qui nous encouragent dans le stade. Il dit, courez encore! Nous avons donné notre sang, courez encore! Alors, à la fin, l'homme de Dieu dit, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, il avait en vue la joie qui lui était réservée. Amen. Vous savez, après toutes nos épreuves, Dieu va nous donner la joie d'en haut. Une grande récompense appartient à tous ceux qui auront traversé les plus grandes difficultés. Alléluia. On a toutes les raisons ce matin d'être heureux. Mais j'ai ça sur le cœur. Depuis quand tu n'as pu goûter à la joie du Saint-Esprit dans ta vie avec Dieu, chez toi, dans l'Église? Je crois que je vous l'avoir déjà dit, je vais radoter de plus en plus en vieillissant peut-être. Je chantais à tue-tête avec quelques chrétiens. On faisait 3-4 kilomètres à pied pour aller à La Réunion. Ben vous savez ce qu'on chantait à tue-tête dans les rues de la ville? Moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia! Vous posez la question qui fâche. Depuis quand vous n'êtes pas venu à l'église en vous disant dans votre cœur, je suis heureux d'aller à la maison de Dieu? Amen! Moi, je suis dans la joie. Merci Seigneur. Hier soir, j'étais heureux qu'on ait notre culte. Gloire à Dieu. Il faut que nous retrouvions la joie de la maison de Dieu. La joie du salut. Merci Seigneur. Dans ce texte de l'Évangile où Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit, nous l'avons lu. Que fait-il tout de suite? Il dit, je te loue, ô Père. La joie engendre la louange. Amen. Et pourquoi on a parfois du mal à louer? Moi je pense, on a perdu une certaine joie, excusez-moi frères et sœurs. Et il faut retrouver la relation avec Dieu et auprès de lui, la joie du Saint-Esprit. Amen. Parce que ces choses sont célestes, elles sont intangibles. Gloire à Dieu. Allez, lisons Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il périt? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Amen. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Il n'y a pas beaucoup de textes qui parlent du chant dans le Nouveau Testament. Et ceux qui en parlent ne le réduisent pas au chant de l'Église. Quand il est écrit ici, quelqu'un est-il dans la joie, c'est pas dit qu'il chante des cantiques dans l'Église. Mais qu'il chante des cantiques. Alléluia. Peut-être quelqu'un chantait dans sa maison les chants du Seigneur, les cantiques. Et le chant s'est arrêté. La maison ne chante plus. Pourquoi? La réponse est là. Parce qu'il faut être dans la joie pour chanter les cantiques. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Ce message, il est donné pour que le Seigneur nous renouvelle afin que chez nous, à nouveau, résonnent des chants de joie pour le Seigneur. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Dans l'assemblée, parfois nous avons du mal à chanter ensemble. Surtout les premières réunions, excusez-moi, j'ai trouvé que le chant était timide. Nous avons besoin de chanter à plein poumon, à pleine voix. Parce que le chant est l'expression de notre joie. Amen. Et nous voudrions honorer le Seigneur. Je crois que Dieu est glorifié quand on est heureux de le connaître. Amen. Je crois que cela plaît à Dieu quand on manifeste notre joie en sa présence. Gloire à Dieu. On va terminer avec le Deutéronome, vous voulez bien, Deutéronome chapitre 33. Deutéronome 33. Deutéronome 33, verset 26. Ah, excusez-moi, on va revenir à un texte, j'aimerais bien le lire. Alors, c'est 2 Corinthiens 13, 11. Vous pouvez garder le Deutéronome, on le lira pour terminer, mais je voudrais lire 2 Corinthiens 13, 11, parce que ce matin, en le lisant, cela m'a interpellé. 2 Corinthiens 13, 11. 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, je vous attends. 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Voyez l'ordre. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Ça n'a l'air de rien. Mais je crois que si on veut d'abord se perfectionner, on risque d'en perdre notre joie. D'abord, soyez dans la joie. Après, perfectionnez-vous. Vous comprenez ? Je veux dire que c'est sûr, bien-aimé, c'est sûr. Il y a encore un gros travail de sanctification dans votre vie et dans la mienne. Honnêtement, on a encore beaucoup de progrès à faire, c'est sûr et certain. Et on pourrait vraiment, si le Seigneur, heureusement le Seigneur ne le fait pas, si le Seigneur nous éclairait pleinement de sa lumière ou un peu plus de sa lumière, je crois qu'on serait tous horrifiés de ce qu'il y a dans nos vies encore et que Dieu sait et que Dieu connaît. Mais c'est écrit quand même, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Amen. Les Corinthiens, quand même, avaient des progrès à faire. Et c'est intéressant, cette conclusion aux Corinthiens. Paul ne dit pas, bon écoutez, après tous les problèmes qu'on vient de discuter dans cette épître, après tout ce qui se passe chez vous, c'est pas le quart d'heure d'être heureux. Hein. Il faut maintenant réfléchir plus sérieusement à votre marche avec Dieu. Mais dans sa conclusion, il ne dit pas que ça, certes, mais il dit quand même, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Amen. Une vie chrétienne dans laquelle le perfectionnement ou l'introspection est prioritaire, c'est une vie chrétienne déséquilibrée. Nous devons d'abord vivre dans ce que Jésus a fait pour nous. Amen. D'abord vivre dans la joie du salut qu'il a accompli pour nous. Et dans cette joie, eh bien, vivre la sanctification. C'est peut-être la différence entre la vraie sanctification et le légalisme. Le légalisme, à la fin, on n'est plus heureux. On est tous malheureux dans le légalisme. Et d'ailleurs, on ne va pas si loin que ça avec le légalisme. On met des règles, et si on respecte ces règles, on est bien. Et en fait, ce n'est pas très profond non plus, le légalisme. Mais la grâce de Dieu, c'est dans la joie de ce que le Seigneur a fait progresser toujours plus dans la sanctification. Amen. Vous savez, ces quelques mots que je vous donne, j'ai mis des années à les comprendre pour moi-même. Pendant de nombreuses années, je me suis fait beaucoup de mal parce que je voulais progresser dans les voies du Seigneur. Et même en tant que prédicateur, mes premières années, sans m'en rendre compte, je mettais surtout en avant le devoir des chrétiens. Alors que dans les Épîtres, Paul parle d'abord de Jésus-Christ et ensuite des devoirs des chrétiens. Il y a des devoirs des chrétiens. Il y a des impératifs, mais si l'on ne met pas Jésus avant, c'est du légalisme. Mais si on vit en Jésus-Christ tout ce que Dieu nous demande, alors nous pouvons nous sanctifier dans la joie du Dieu saint et bienheureux. Alléluia. Allez, on termine. Deutéronome, comme je le disais, Deutéronome, chapitre 33. Oui, merci. Ah ben, c'est bien, il y en a quelques-uns qui suivent, ça m'encourage. Verset 26, Deutéronome 33, verset 26. « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit « Extermine ». Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût et son ciel distille la rosée. Verset 29. « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Amen. Amen. Que tu es heureux, Israël. » Je voulais terminer sur le rappel. Franchement, l'Église, elle est bénie. Il n'y a aucune religion qui n'a le Dieu de l'Église. Comme autrefois, aucune idole païenne ne pouvait être comparée à l'Éternel en Israël. Aucune religion ne peut être comparée à notre Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et nous pouvons être pleinement heureux de sa grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un, un ou deux, pourrait prier pour le message que nous avons entendu ? Merci. Gloire à Dieu.